un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ce sont des policiers pris entre deux feux. D'un côté, accusés de trahir leur origine, leur classe, leur quartier, leur passé, par leurs camarades de cité, leurs amis d'enfance, leur famille. D'être passés dans la bande rivale, chez l'ennemi, dans l'autre camp, celui des baqueux, ceux qui ont tiré sur leurs potes, arrêté leurs copains. On connaît leur famille, leur adresse, ils ne sont pas à l'abri des représailles. De l'autre côté, ils sont soupçonnés de connivence, de parti pris, insultés, méprisés, racisés, discriminés par leurs collègues, leur hiérarchie. Parfois, la discrimination discrète consiste à les réduire à leur appartenance en leur donnant des missions pour enfants d'immigrés, en les confinant à leur catégorie, en les réduisant à leur origine. D'autres fois, elle est grossière, brutale, violente, condamnée, mais rarement. Il se peut enfin qu'il y ait une troisième force en présence, celle de la famille restée au bled, pour qui policier c'est une fierté, une position, une promotion, un statut. Cela n'y comprenne rien à la guerre des clans et ajoute une couche de complexité. Rarement, ils disent que tout va bien et quand c'est le cas, on ne les croit pas. Mais ils sont policiers, ils savent donner le change, manier la langue de bois. Tout de suite dans les pieds sur terre, deux policiers entre deux feux. L'une parle cash, l'autre se cache encore un peu. Ils racontent la vie quotidienne des enfants d'immigrés passés de l'autre côté par Aladine Zayan.
Je m'appelle Nora Lakeal, j'ai 46 ans. Je suis née en France, j'ai grandi entre Barbès et Gare du Nord. Je suis fonctionnaire de police depuis 22 ans. Je n'étais pas du tout censée devenir policière puisque je me destinais à des études de philosophie. Dès que j'ai eu mon bac, je me suis dit, sans discuter, c'est la philosophie. Alors moi, j'ai grandi dans une loge de gardienne d'immeuble, rue Dunkerque, en face de la gare du Nord, dans un petit 25 mètres carrés. Donc ma maman était à la maison, ou alors je la voyais faire le ménage dans les parties communes. Mon papa, lui, était ouvrier chez Darras et Jouannin. Donc parfois je le croisais, quand je me promenais dans la rue, je le voyais en train de faire du marteau-piqueur, hein, avec son casque sur la tête. Et voilà, il se levait à 4 heures du matin, il rentrait à 16 heures le soir, il était épuisé. Voilà. Lorsque j'étais étudiante en philosophie, j'avais besoin beaucoup j'étais pas à ma place, en fait. Je me rendais compte que j'étais pas à ma place. Et heureusement que j'ai eu le sport, en particulier la boxe française, qui était exactement le sport qu'il me fallait. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mes professeurs de boxe, qui étaient aussi fonctionnaires de police. C'est un sport où on vous accepte comme vous êtes. Au début, je suis arrivée comme un oiseau blessé. Et j'ai pris ma place tout doucement. Et au fur et à mesure, en échangeant avec mes professeurs, je leur ai expliqué que je faisais de la philosophie pour devenir utile aux autres. Ils m'ont dit, mais Nora, être utile, ça ne peut pas être que par les études. On peut être utile autrement. Preuve en est, voilà ce que nous sommes. Et là, ils m'ont expliqué ce que c'est que le métier de policier. Et je vous avouerai que je me suis pris une claque, parce que je me suis dit, mais en fait, oui, c'est exactement ça qu'il me faut. Être utile aux autres, sauver les gens. Donc, j'ai tout de suite interrompu mes études et j'ai passé le concours. Donc, en sortie d'école, j'ai été affectée dans un premier temps à l'hôtel préfectoral, préfecture de police. J'y trouvais pas du tout mon compte. Donc, j'ai chopé un collègue syndicaliste et je lui ai dit, écoute, moi, il faut que je parte. Il me dit, mais non, mais on part pas au bout de 6 mois, sauf si on demande les arrondissements les plus difficiles. Le lendemain, j'ai fait un rapport, j'ai demandé le 18, 19, 20e arrondissement. Et finalement, j'ai été prise sur le 20e arrondissement. Au début, c'était un peu difficile parce qu'effectivement, j'étais une des premières, entre guillemets, ce qu'on appelle des beurettes, ce que je supporte pas, ce nom. Mais à l'époque, on nous appelait comme ça. Dès que je suis arrivée, j'ai demandé où étaient mes vestiaires. Et je me souviendrai toujours d'une grande blonde qui me dit, bah, écoute, si t'as appris à lire, tu devrais te démerder pour trouver ton vestiaire. Voilà. Donc j'ai commencé à faire mes premières enquêtes d'essai, mes premières femmes battues aussi, ce qui est terrible, vraiment terrible. Mais police secours, c'est le métier par excellence dans la police nationale. Lorsque je suis rentrée dans la police, il faut savoir que c'est là où j'ai découvert que j'étais arabe. C'est dans les yeux des policiers. Quand j'arrive à l'école de police, c'est le formateur qui commence à faire des allusions sur mes origines et à se moquer. Et moi qui pensais avoir enfin trouvé ma place dans ce corps de métier, pour lui, je n'étais pas à ma place. Là où ça a été le plus compliqué, c'est lorsque j'ai été affectée dans un groupe qui s'appelle le GSI, groupe de soutien aux îlotiers. Et en fait, notre travail était à chaque fois de contenir les violences urbaines. À ce moment-là, j'ai découvert une autre forme de racisme. C'est que lorsque j'allais patrouiller le soir dans les cités, je revenais régulièrement avec des crachats sur ma tenue. Ou alors je me faisais insulter par des maghrébins qui me traitaient de traître ou de sale arabe. Au début, j'ai commencé à déprimer un peu, jusqu'à ce qu'un de mes collègues, qui est d'origine algérienne, m'a dit « Écoute, Nora, ou tu assumes et tu t'épanouis et tu imposes ce que tu es, ou alors tu quittes la boîte. » Et en fait, je me suis plus jamais laissée faire. À chaque fois que quelqu'un m'insultait à l'extérieur, je répliquais. Et à chaque fois qu'un de mes collègues me parlait mal, je ne laissais rien passer. Ça se règle comme en boxe, face à face, on discute et il a intérêt à argumenter. Et comme généralement je désintègre tout argument raciste, parce que de toute façon ça ne peut être que désintégré tellement c'est facile et stupide, que bah, généralement on en reste là. Donc au début des années 2000, j'étais au GSI 20e et donc j'étais vraiment épanouie. Et je pensais avoir trouvé ma place. Sauf que je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui étaient en train de m'observer et je ne le savais pas. Donc, les renseignements généraux sont venus me contacter parce qu'ils cherchaient une fille pour intégrer la section opérationnelle et recherche spécialisée. Donc, c'est le service d'élite des renseignements généraux. Donc, je suis allée au rendez-vous. Et là, ils m'ont dit, voilà, votre profil nous intéresse. Est-ce que vous voulez intégrer notre service, sachant que vous allez être la première femme? J'ai passé les examens et j'ai réussi. Donc, grosse pression. Et au moment où j'intègre ce service, on a une grande mission. Il a fallu que je me mette un peu dans la peau d'une musulmane pratiquante. Donc le lundi matin, il était prévu que mes collègues viennent me chercher pour me récupérer pour partir sur site. Et donc il a fallu que le week-end d'avant, j'achète tout le matos adéquat, mais en plus que je me familiarise à porter l'arme tout en ayant le djilbab, à porter toutes mes petites inductions, ça s'appelait des inductions à l'époque, parce que maintenant, heureusement, la technologie a beaucoup évolué et on n'a plus ces petites oreillettes qui peuvent tomber, voilà. Donc, il a fallu que je me fasse à tout cet outillage-là en un week-end toute seule, puisqu'en plus, j'étais la première fille, donc je ne pouvais pas demander à d'autres collègues de m'expliquer. C'était un gros challenge. J'ai beaucoup lu, j'ai révisé quelques sourates. Et puis, j'ai appris à déambuler dans mon salon en regardant devant un miroir pour voir si l'arme ne dépassait pas, si j'étais pas, pour ne pas me faire avoir, et pour être opérationnelle le lundi. Lorsque je me suis habillée, on va dire... Alors, c'est marrant parce que je vais dire en musulmane, mais c'est comme si on s'habillait en Batman ou ça fait un peu bizarre, quoi. Mais lorsque je me suis habillée en pratiquante musulmane, j'ai eu un petit choc parce que je ne m'étais jamais envisagée de cette manière-là. J'ai mes tantes qui sont voilées, donc ça m'a rappelé le pays, ça m'a rappelé mes tantes, et ça m'a rappelé en fait que j'étais d'origine tunisienne. Et puis, je me suis dit, est-ce que je vais assumer de porter ça? Est-ce que je suis déjà rentrée dans une mosquée? Ben non. Le lundi, mes collègues viennent me chercher, on part sur site, et là, c'est le début de l'aventure. Cette opération consistait à surveiller, pratiquer des filatures sur un réseau terroriste, donc islamiste, qui, au fur et à mesure en fait, de nos filatures, nous a révélé qu'il projetait un attentat à Paris. Il faut savoir que lorsque vous travaillez au renseignement en général, vous n'avez plus de vie de famille, vous n'avez plus de vie sociale. Vous avez toujours deux portables, vous avez souvent la valise qui est prête. Donc j'ai vécu 18 mois à devenir l'ombre de celui que je nomme Nasser, qui préparait un attentat à Paris. Même mes séances de psychanalyse, j'étais focus sur Nasser. Bon, évidemment, je ne donnais pas les noms ni rien du tout, puisqu'on est toujours sous le coup du secret défense, mais en tous les cas, j'ai beaucoup partagé avec elle les émotions que m'ont procuré ces filatures et ces surveillances. Vers le 18e mois, trois individus qui étaient entraînés au Pakistan, qui ont fait partie donc du groupe terroriste, sont venus se greffer à la cellule terroriste. Et en fait, entre ces trois-là, je pense qu'il y avait une compétition à qui allait le plus plaire à Nasser. Voilà. Parce que Nasser, c'est quelqu'un de très reconnu dans le milieu, c'est très respecté. Voilà. Et donc, revenant fraîchement du Pakistan, je pense qu'ils étaient très aguerris aux techniques de filature. Donc du coup, un jour, j'étais tranquillement en train de filocher devant la mosquée dans laquelle il officiait. Et là, Nasser vient me voir, entouré de ses trois amis. Habillés, donc ces trois jeunes convertis, habillés, djellbab, barbe, le classique, la panoplie du converti radicalisé type. Et donc Nasser, qui vient me voir. Donc là, j'ai la peur de ma vie. Je ne sais pas où sont mes collègues. Je suis obligée d'enlever mes inductions en urgence pour ne pas me faire repérer. Donc je ne suis plus joignable. Il faut se mettre vraiment dans l'esprit que je suis toute seule face à ces quatre individus, dans la rue. Et ce Nasser vient me voir. Et là, il me dit, bon, ma chère sœur, je sais que tu es policière. Donc arrête ton cinéma. Mais tu sais, je n'ai rien contre toi. Parce que tu es une égarée, tu as beaucoup d'énergie et beaucoup de courage pour avoir fait ce que tu as fait. Le problème, c'est que tu l'emploies à mauvais escient. Mais Dieu est miséricordieux, donc lâche les gens avec qui tu es. Pour les policiers et pour la France, tu ne seras jamais reconnue comme française. Car, il m'a dit, « mais habonesh », ce qui veut dire en arabe, « ils ne nous aiment pas ». Et il me dit, voilà, tu es dans l'erreur, mais sache que nous, pour nous, tu seras toujours, t'es peut-être pas française, mais t'es musulmane à vie, et nous on est musulmans, on est tes frères. Donc viens dépenser ton énergie avec nous, au lieu de la dépenser, la gâcher avec les policiers. Donc là, c'est comme s'il m'embrassait avec son bras, qu'il me tenait avec son bras et qu'il m'emmenait. Et là, j'ai eu la peur de ma vie, mais la peur de ma vie, parce que pendant que Nasser me parlait, les trois autres n'auraient rien trouvé de mieux à faire que de faire des tashhid. Donc je me suis dit, bon, c'est fini. Donc les tashhid, c'est des chants religieux. Et je me suis dit, bon, c'est fini pour moi, au revoir. À ce moment-là, il y a un bus qui arrive. Et je me suis dit, bon sang, il faut que je saute dans ce bus, parce qu'il n'y a que ça qui peut me sauver. Donc je suis partie dignement, pas en courant, hein. Je suis rentrée dans le bus, et lorsque les portes se sont fermées, j'ai compris ce que c'était vraiment que la peur. C'est la première fois où j'ai eu aussi peur, franchement. Je prends mon téléphone, j'appelle mon collègue et ami Yacouba, qui vient me récupérer à la station d'après. Et là, on se prend dans les bras et on pleure tous les deux. À ce moment-là, mes collègues arrivent, me félicitent, on part tous et on arrête la mission. 15 jours plus tard, tout le réseau est démantelé parce qu'on avait assez de biscuits pour les arrêter. Et je suis partie avec Yacouba en mission en Corse. Pendant un petit moment, et puis après je suis revenue sur les questions d'islam radical. Donc je me suis rendu compte que finalement, je commençais à trouver ma place, mais cette place, en fait, c'est la place d'agent du renseignement. Et en fait, cela ne m'a plus quittée depuis. Lorsque je suis rentrée au renseignement général, il n'y avait pas de défiance vis-à-vis des Maghrébins, au contraire. J'étais attendue, j'ai pas eu de problématiques particulières. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il y a l'expérience. Mes 22 ans de police font que Ça va être très compliqué pour un collègue s'il a envie de me renvoyer à mes origines, parce qu'avec les 22 ans que j'ai effectués et avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai servi sur la lutte antiterroriste, ça va être très compliqué pour lui. Mais j'ai conscience aussi qu'il y a des petits jeunes qui rentrent actuellement et je pense que ça ne doit pas être facile pour eux. Dans une période où c'est déjà assez compliqué d'être musulman en général dans la société française, donc j'imagine qu'ils doivent souvent s'en prendre quelques-unes, quelques réflexions qui ne doivent pas être agréables. Si j'ai un mot à leur dire, c'est que faut rien lâcher. C'est justement dans les périodes les plus difficiles comme ça qu'il faut tenir, parce que j'espère qu'à un moment ou un autre, dans notre histoire, on va quand même nous laisser tranquilles, quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Abdoulaye Kanté, donc j'ai 42 ans, je suis policier depuis 1999, donc ça fait 21 ans que je suis dans la police. Mes parents se sont rencontrés ici en France, c'était les immigrés, hein, donc mon père était étudiant à la Sorbonne, il était pizzaïolo, donc pour payer ses études. Ma mère était femme de ménage dans les deux aéroports, Roissy et Orly, et à mes 2 ans, donc papa a eu une opportunité au Mali, donc pour rentrer au pays, donc je suis rentré avec eux, je suis resté là-bas 13 ans. Et je suis revenu en France et donc j'ai été élevé par ma tante. J'habitais dans un quartier, dans la banlieue du Val d'Oise. Ma tante avait 3 enfants. On vivait dans un 2 pièces. C'était une femme modeste qui était femme de chambre, qui nous a élevés du mieux qu'elle pouvait. Je ne me voyais pas faire de longues études. Hein. Je voulais juste avoir mon bac. Après, donc, je suis parti à l'armée. J'avais 17 ans et 6 mois quand je suis rentré dans l'armée, dans la marine nationale, sur un patrouilleur. Et j'ai fait toute l'Europe du Nord. L'Islande, la Norvège, la Finlande, la Suède, etc. C'est là que je pense que j'ai vraiment appris cette expérience des valeurs républicaines et françaises, en fait. Pour moi, le fait d'avoir épousé le métier de policier, c'était parce que déjà, je sortais de l'armée et je ne voyais pas faire autre chose, en fait. Il y avait la sécurité de l'emploi, il y avait aussi le fait de porter l'uniforme. Quand on rentre dans la police, on fait une formation de 1 an. Donc à l'époque, j'étais à l'école de Vincennes. J'ai eu la chance d'être affecté sur un commissariat de Paris, le 11e arrondissement. La police secours, donc en sécurité publique, vous faites de la patrouille pour soit un cambriolage, ou soit pour des violences conjugales, ou du tapage. C'est ça en fait la base du métier de policier. Être présent au quotidien et aussi être aussi, on va dire, cette éponge, la misère humaine que personne ne veut voir aussi. Quand vous avez des fois, vous, face à vous, des comportements qui sont haineux ou même des choses horribles, hein. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui vient de se faire cartonner par un véhicule ou une personne qui vient de tomber d'un haut d'immeuble qui s'est défenestré, vous voyez des violences intraconjugales ou des violences même extérieures. Donc là, je me suis posé des questions au tout début, je me suis dit « waouh, c'est violent ». Mais si j'ai décidé d'épouser cette cause, c'est de me dire « je veux être utile aux autres ». Parce que je pense que le métier de policier, c'est aider aussi, aider et secourir. Il faut savoir aussi que le métier de policier, c'est une pression quotidienne, bien plus qu'on ne le pense. À l'époque, quand vous êtes issu de la minorité, vous êtes vu évidemment comme des parias, on va dire, de la société, vous n'êtes pas de Paris, vous êtes issu de l'immigration, et tout ça, etc. Donc du coup, ce sont des choses qui étaient très ancrées à l'époque, dans les années 80-90, etc. Mais ça a évolué. Il est arrivé que des fois que je revois des gars qui, franchement, c'est pas forcément bien passé, et ils sont étonnés par mon ascension. Et c'est une revanche de dire que, justement, la police a de nouveaux visages, de nouvelles personnalités, et ça, c'est une belle revanche. Montrez justement que vous faites l'égal des autres. Je suis comme toi, et je vais te montrer que, justement, je suis peut-être même plus que toi, par mon travail, par ma façon d'être et tout, etc. Sur une intervention, donc à l'époque quand j'étais en police judiciaire, on avait un trafic de stupes qu'on avait démantelé et c'était une personne d'origine malienne. Et je me souviens lors de la perquisition, donc à 6h du matin, donc on arrive, on n'a pas cassé la porte parce que la porte s'est ouverte, donc tant mieux. Voilà, bonjour police, où est un tel ? On nous indique dans la chambre qu'il dormait, donc on y va, donc on le réveille, on interpelle l'individu, donc on lui notifie sa garde à vue, qu'il est placé en garde à vue à ce jour, à telle heure, pour des faits de trafic de stupes, etc. Donc très calme, hein, très calme. Évidemment, l'individu vivait avec sa famille. C'était une famille d'origine malienne comme moi. Il y avait sa femme, il y avait ses parents. Donc vous avez une des mamans qui faisait la prière très tôt et qui ne comprenait pas que nous on arrivait et que le fils, oui, mais attendez, mon fils, il est comme si, il ne fait pas ça, etc. On essaie de calmer. Et c'est là qu'après que, justement, on m'a renvoyé tout de suite à mon origine. Ça a commencé à monter quand on a fait la perquisition. C'était une des sœurs et sa femme qui était en train de vociférer, de m'insulter. Ouais, de toute façon, t'es un vendu, de toute façon, tu dis rien. Comment tu peux accepter qu'on nous fouille comme ça ? Comment tu peux être avec tes collègues blancs ? Toi, en tant que noir, t'as pas honte, justement, de nous venir chez nous comme ça, etc. Il a rien fait, c'est un de tes semblables. Il est pareil que toi. Attends, pourquoi tu fais ci, ça ? Donc, voilà. Il a fait une connerie. Derrière lui, il était calme, hein. Forcément, il était calme, il disait rien. Mais vous, quand vous prenez ce tonneau d'insultes, vous dites, mais pourquoi ? Parce que je suis noir, d'origine malienne, on va être un peu plus agressif, parce qu'on estimera que je suis un traître à la cause. Quelle cause ? Quand vous faites votre travail, bah, il peut arriver que vous allez chez des personnes qui sont d'origine diverse, mais pour autant, ça veut dire, est-ce qu'il y a une carte d'immunité par rapport à cela ? Je ne pense pas. Vous faites juste votre travail sans distinction. Et ça, ces insultes sont quotidiennes. Elles sont quotidiennes parce que je suis clivant du fait que je représente l'État. Ça fait ressortir certaines frustrations d'antan, mais moi, j'ai pas à subir, entre parenthèses, des frustrations d'antan. Oui, effectivement, il y a eu des blessures par rapport aux discriminations, au racisme, etc. Mais j'ai envie de dire que les temps ont changé. Avançons. Quand on reçoit ces insultes dans le feu de l'action, vous y pensez pas. Vous êtes à fond dans votre travail. Il y a des auditions, vous avez 96 heures de garde à vue, comme c'est en matière de stupéfiants. Après, quand vous revenez, c'est là, à ce moment-là, quand la tension redescend, bah, il faut être bien entouré. Moi, j'ai toujours eu tendance à essayer de m'enfermer et d'évacuer, mais intérieurement. Donc, je fais le sport aussi, je cours, donc je fais du judo. Je me recentre sur moi-même, sur ça, des choses essentielles. Mais si on n'évacue pas, effectivement, on pète un câble. Du fait qu'on soit issu d'une minorité, j'aime pas trop le mot minorité, mais plus de l'immigration, on doit faire doublement. C'est-à-dire qu'on doit doubler de travail, etc. Le travail paye, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais il faut aussi qu'en face, l'administration prenne conscience que il faut plus qu'il y ait cet entre-soi, etc. Voilà. Il faut plus ouvrir. Un concours, c'est ça, en fait. Et moi, j'accepterai jamais qu'on prenne des personnes issues de l'immigration parce qu'ils sont issus de l'immigration. Parce qu'ils ont des compétences. Par exemple, moi, il est arrivé sur une mission que vous sauvez une personne qui a voulu se suicider, ou lors des violences intrafamiliales, où vous avez sauvé une femme qui a failli mourir sous les coups de son homme devant ses enfants. La qualité de l'intervention, ça aide à votre évolution. Il y avait, par exemple, une affaire de viol. Je savais que l'individu avait toujours des habitudes à un endroit précis. On avait du mal à l'approcher, on n'avait pas d'ADN, mais on avait juste simplement un témoin oculaire qui l'avait vu passer dans une rue. Et un soir, je rentrais chez moi, mais je lui dis non, instinct policier, je dis non, je vais aller à l'endroit et peut-être qu'il sera là. J'étais avec ce qu'on appelle un véhicule sous-marin et il était là. Et de loin, je vois des mouvements et à ce moment-là, je prends la photo des individus qui étaient sur place. Et le lendemain, on convoque la victime et la victime tout de suite le reconnaît. On avait mis pratiquement plus de 6 mois pour essayer de trouver l'individu et c'était grâce à ce réflexe. Il est arrivé une fois que voilà qu'il y a eu des moments où des collègues ont eu la matraque lourde, on va dire, et que c'était moi qui rédigeais le procès-verbal d'intervention. Il y a eu un moment où j'ai hésité. On a essayé on voulait me faire changer le PV, mais j'ai dit non, enfin peut-être édulcorer la vérité, mais j'ai dit non, c'est comme ça et voilà, je ne change pas. Il y a eu des hauts, des bas, mais l'objectif n'a jamais changé, me concernant personnellement. Il y a toujours cette même hargne et tout de servir les citoyens, de faire le boulot et tout ça. Et d'autant plus encore quand on est issu de l'immigration, nous, on veut aussi faire bouger les choses. Quand je dis nous, ça fait un peu communautaire. Mais non, parce que nous, on est la police et la police peut venir aussi d'un autre horizon. Quand on vous traite de traître, on va dire, de vendu ou de nègre de maison et tout ça, etc., je pense que certains font un anathème, voilà, une espèce de confusion du fait que je ne peux pas comprendre en fait qu'ils sont dans une situation, on va dire, précaire, etc. Donc on va essayer de trouver une espèce d'excuse, une victimisation, parce que en raison de l'origine et tout, donc je serais plus à même de comprendre leurs conditions, etc. Ou ils considèrent que vous êtes, voilà, un paillasson des Blancs, qui cautionne l'état raciste qui, justement, essaye d'aller interpeller une personne d'un quartier. Alors qu'en fait, non, c'est quand vous venez pas pour rien, vous venez interpeller un délinquant et vous faites votre travail. Mais le fait que, justement, vous êtes cette tache noire, entre parenthèses, dans le groupe, justement, qui vient interpeller, là, oui, effectivement, c'est encore plus dur. On dit, mais c'est pas possible. Pourquoi toi, tu cautionnes en fait ce qu'ils font, tu cautionnes le fait d'interpeller un de tes semblables, un de tes frères. Là, évidemment, je ne cautionnerai pas. Par contre, si ce sont des violences illégitimes ou s'il y a des trucs racistes qui sont faits vers un individu sans raison, là, effectivement, oui, je ne le cautionnerai pas. Mais là, je suis dans le cadre de mon travail et au contraire même. J'en suis fier et je ferai toujours mon travail malgré le tonneau d'insultes que je reçois.
C'était Policiers entre deux feux, un reportage d'Aladin Zayan, réalisé par Émilie Vallat avec un coup de main de Jean-Christophe Francis et diffusé pour la première fois en avril 2021. Merci à Nora Lakea, l'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.
dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée.